Haideți, copii! Radio Scopy,
Henri Laborie,
Jacques Chancel. Professeur Henri Laborie, vous êtes chirurgien de formation et de pratique, mais je vous sais plus encore occupé par la recherche. Alors, quelle recherche, pour quel bien-être et pour quel avenir?
Pour quel bien-être, d'abord le mien.
Ah, ça commence par soi,
ah, bah,
par soi-même.
Bien sûr, on ne fait de la recherche que pour soi. Je ne suis pas un bienfaiteur de l'humanité, et je cherche à me faire plaisir, c'est-à-dire à comprendre ce que je suis venu faire sur cette planète, ce qu'ils sont venus faire les autres, mes contemporains, et comment je peux vivre au milieu d'eux. C'est pas commode, c'est pas simple, mais depuis une trentaine d'années, on commence à mieux comprendre ce qui nous permet d'entrer en relation avec les autres, c'est-à-dire le fonctionnement du système nerveux central.
Mais comme vous êtes un scientifique, vous avez plus de chance que les autres de savoir où vous en êtes. Vous avez justement, j'ai prononcé le mot, le savoir.
Non. Bon, le scientifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille, on essaie de trouver expérimentalement, de confronter avec les lois de la nature, si vous voulez, par un protocole précis, des résultats que tout le monde peut refaire quand on les a publiés, c'est tout. Alors, scientifique, je veux bien, mais enfin, ce que je crois d'avoir de particulier, si vous voulez simplement, c'est d'avoir fait de l'interdisciplinarité à une époque où c'était pas bien d'en faire. On considérait que je touchais à tout, et en 30 ans, de m'être fait une culture interdisciplinaire qui me permet de me balader un peu dans tous les champs des autres, qui quelquefois défendent ces territoires, avec une certaine agressivité. Mais enfin, c'est pas grave. Moi, je me suis fait plaisir en essayant de comprendre. Et on ne peut pas comprendre un seul niveau d'organisation.
Mais de quoi êtes-vous fier? On dit parfois que vous êtes le père des tranquillisants. Ça ne vous suffit pas. Je crois que vous avez quand même passé un bon moment de votre vie à étudier les comportements. Quel est le plus important?
Remarquez que c'est venu de là. En fait, que j'ai abandonné la chirurgie, c'est que je suis tombé à 35 ans sur une découverte qui a fait le tour du monde, qui était le premier neuroleptique, le premier tranquillisant. Qui était la corpromazine, qu'on appelle le largactyle en France.
Oui, mais enfin, tous ces mots, nous, on ne comprend pas.
Bah, c'est un médicament que vous trouvez, c'est un mot que vous trouverez dans toutes les étagères des pharmaciens. Largactyle, c'est... Et, si vous voulez, c'était l'une des premières drogues qui permettait d'agir d'une façon suffisamment efficace sur le cerveau des malades mentaux pour que l'on puisse se récupérer dans un système social des gens qui, à ce moment-là, étaient encore irrécupérables. Alors, ça a donné naissance, je veux dire, à partir de ce moment-là, à une explosion de recherche dans le monde entier. D'abord parce que... Pourquoi? Parce que ça débouchait sur la vente de produits et que toute l'industrie pharmaceutique s'est mise dans le bain, que ça intéressait. Et il y avait un profit à en tirer. Et d'autre part, un certain nombre de chercheurs donc se sont mis aussi au travail dans le monde entier et finalement, on est tombé sur... les découvertes successives des psychotropes, c'est-à-dire de toutes les molécules que nous avons à notre disposition actuellement pour agir sur le cerveau humain. Mais cela n'a été possible, et c'est ça qui est intéressant, qu'en comprenant de mieux en mieux le fonctionnement de ce cerveau humain, c'est-à-dire d'abord le cerveau animal, parce qu'on ne peut pas expérimenter directement sur l'homme, et sachant, voyant comment ça se passait chez l'animal, sur le plan biochimique, sur le plan des nerfs qui constituent les voies nerveuses qui constituent ce cerveau humain, on a réussi progressivement à mieux comprendre comment il fonctionnait, et donc à l'influencer par la pharmacologie.
Donc vous êtes l'inventeur de certains tranquillisants, de ceux qui gomment l'angoisse, parfois la douleur, et pourtant on n'en finit pas aujourd'hui d'attaquer les médicaments. Alors êtes-vous de ceux qui disent qu'il y en a trop?
Non, écoutez, personnellement...
On se drogue?
Oui, mais bien sûr. Souvent on m'a dit, comme vous le dites, vous êtes les Américains autrefois, il y a quelques 10 ou 15 ans, me disaient, vous êtes à l'origine des premières drogues psychotropes, j'en ai fait d'autres d'ailleurs, et est-ce que vous n'avez pas une responsabilité, vous ne vous sentez pas quand même coupable de l'abus de ces tranquillisants, de ces drogues? Alors à l'époque je disais, non, je ne me sens pas coupable parce que finalement, si vous n'aviez pas eu ces molécules à votre disposition pour traiter vos névrotiques et vos psychotiques, bah, vous n'auriez pas eu suffisamment d'hôpitaux pour recevoir vos malades mentaux. La preuve, c'est qu'ils ont quand même été relativement vidés. C'est ce qu'on dit. Vous n'auriez pas eu suffisamment de cimetières pour vos suicidaires et pas suffisamment de prisons pour vos gangsters. Bon. Et puis, parce que c'est en fait votre vie, ce type de vie dans laquelle nous sommes inclus qui est insupportable. Et s'il n'y avait pas eu ces molécules, on n'aurait pas pu la supporter. Puis les années ont passé, je me suis dit que peut-être, au fond, effectivement, s'il n'y avait pas eu les drogues psychotropes, il y aurait peut-être eu un ras-le-bol plus précoce et on aurait peut-être basculé dans la recherche d'un autre type de comportement social que celui dans lequel nous maintenons désespérément. Mais finalement, je ne me sens pas non plus responsable parce que, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'il y a des gens qui sont récupérables pour la productivité qui ne l'était plus. Mais le yoga, la méditation transcendantale, toutes ces méthodes qui font qu'un monsieur qui ne peut plus vivre le soir après sa séance, il se trouve mieux que le lendemain et le matin, il retournera, ou la femme, retournera faire ses roulements à billes hein, chez Renault ou ailleurs. C'est l'équivalent des drogues psychotropes. Et en plus, ne croyez-vous pas que ce que nous sommes en train de faire est un moyen psychotropique aussi puissant que toutes les drogues psychotropes, les mass médias, qui disent comment on doit être heureux, qui conditionnent nos contemporains à se comporter d'une certaine façon dans le milieu où ils se trouvent, ça vaut largement toutes les drogues psychotropes.
Donc vous avez cherché, vous avez trouvé, vous avez inventé un médicament, enfin un tranquillisant. Vous prenez ce genre de tranquillisant, vous ? Êtes-vous angoissé ? Le professeur que vous êtes, Henri Laborie, est-il angoissé ?
Tout le monde est angoissé. En fait, l'angoisse, ça correspond à l'inhibition de l'action. Mon dernier livre s'appelle, paru chez Masson et aux Presses universitaires de Montréal, s'appelle l'inhibition de l'action.
L'inhibition, oui.
Et l'inhibition de l'action, ça débouche sur l'angoisse. Alors, qui d'entre nous, lequel d'entre nous, n'est pas en inhibition de l'action ? Malgré qu'il le sache et qu'il essaie de ne pas être inhibé dans son action, ça demande une créativité, une imagination considérable, la vraie créativité, c'est-à-dire la créativité au jour le jour de son comportement par rapport aux autres, de façon à ce que les autres ne vous tuent pas, ne vous rendent pas fou, et que aussi on ne les rende pas fous, c'est-à-dire qu'il y a un double jeu. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle Éloge de la fuite.
Éloge de la fuite, oui.
Et qui est justement.
Mais qu'est-ce que c'est l'éloge de la fuite ?
L'éloge de la fuite, c'est l'éloge de la créativité imaginaire d'un comportement pour éviter de mourir trop tôt.
Inventer un autre monde ?
Pas un autre monde.
Un imaginaire, en tout cas.
Oui, mais le psychotique, dans ce cas-là, s'est inventé son monde imaginaire. Il a fui. C'est une fuite. Il y a des fuites variées. Les drogues psychotogènes. Ce qu'on appelle les drogues en général, sont un moyen de fuite. Ils s'appellent d'ailleurs partir en voyage, le trip. Donc c'est une fuite aussi. Et l'agressivité, c'est une fuite, c'est le moyen d'agir. Même si c'est inefficace, même si ce n'est pas rentable, c'est un moyen d'agir. Et la majorité des grands créateurs sont à la limite de la psychose. Je ne pourrais quand même pas vous rappeler Van Gogh, Schumann, Cantor et la théorie des ensembles, etc.
Mais vous ne pensez pas, professeur Laborie, que tout homme, toute femme est obligé d'entrer dans l'imaginaire pour s'en sortir ? Quoi qu'il arrive, c'est-à-dire de s'inventer un autre monde.
Oui, mais pour entrer dans l'imaginaire, il faut qu'on vous l'autorise et qu'on ne vous automatise pas entièrement dans vos concepts et vos comportements. Or, c'est pas intéressant, monsieur, qui fait fonctionner son imaginaire, ne serait-ce que sur le plan de son comportement social. Parce qu'il dérange, il trouble.
Ah, c'est un fou.
C'est un fou. C'est un monsieur qui n'est pas conforme.
Autrefois, on disait, c'est un poète.
Mais le poète fait fonctionner son imaginaire et agit, parce qu'il écrit sa poésie. Et alors donc, c'est au moins un moyen de traiter sa névrose, finalement. Et de nous dire qu'il a une mélange. C'est un névrotique, le poète. Ou quand il n'est pas psychotique, c'est un névrotique au moins, c'est-à-dire qu'il a un langage du cœur, c'est-à-dire qu'il essaie de nous dire, voilà, je suis malheureux, je suis pas bien dans ma peau, je sais pas pourquoi, parce que dans son inconscient que ça se passe. Alors, il essaie de nous attendrir par l'intermédiaire d'une production artistique.
Et il a un don de création.
Mais tous nous avons des dons de création.
Tous.
Mais tout le monde. Tout le monde a un cerveau orbitofrontal, ou alors c'est pas un homme, c'est un chimpanzé, encore un chimpanzé, a lui aussi un cerveau orbitofrontal. Seulement, on l'occulte, on le stérilise. On dit dès l'enfance à l'enfant qu'il doit s'élever dans un système hiérarchique de dominance, qu'il doit entrer dans un système de productivité s'il veut être heureux, et on lui apprend comment il doit faire. D'abord, effectivement, ne pas faire caca dans sa culotte, ne pas faire pipi dans son pot, etc. Et on lui dit ensuite le bien, le mal, c'est comme ça, tu seras récompensé si tu fais telle chose, si tu penses telle chose, si tu t'exprimes de telle façon, et tu seras puni d'une autre façon. Comment voulez-vous qu'il fasse fonctionner son imaginaire ? On lui donne des grilles de comportement qui l'empêchent de faire fonctionner.
Il est donc prisonnier ?
Entièrement prisonnier.
Alors, votre itinéraire est tout de même plein et enrichi d'étapes assez bizarres, parce que vous avez été au commencement chirurgien de la marine, et je dois dire que vous l'avez été poussé par la dévotion familiale, puisque c'est un père qui, en fait, vous a entraîné à devenir médecin.
Non, pas entraîné, parce qu'il est mort quand j'avais 5 ans.
Oui, mais qui vous... Ah bon, vous étiez si jeune?
Mais c'est ça, c'est pour ça, mais bien sûr, il est mort.
Oui, mais enfin, c'est quand même le fait qu'il ait été médecin.
Ah ben, il a rempli ma vie.
Voilà.
Ça, bien sûr. Et j'ai pas eu à le tuer. Il était mort avant. Mmh. Vous savez, l'expression « tuer le père », la meurtre du père de la psychanalyse. Et alors, je me suis fait... J'ai été mon père. J'ai vécu à la poursuite de mon père jusqu'à 31 ans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai vécu comme lui. J'ai fait la même école que lui. Et je suis sorti dans la marine, lui était sorti dans la colo. Enfin, je me suis comporté comme l'idéal de mon moi m'obligeait à me comporter. C'était à dire, l'idéal, c'était mon père. Puis à 31 ans, je me suis bien sûr qu'il était mort et que j'étais plus vieux que lui. Et à ce moment-là, je me suis comporté un peu différemment, c'est-à-dire que j'ai essayé d'être moi-même, et c'est pas facile dans la société dans laquelle nous vivons.
Mais on vous a raconté votre père? Parce que je disais un peu faussement que vous aviez été entraîné par lui, mais dans le fond, ça n'est pas tellement faux, même s'il est mort alors que vous aviez 5 ans, puisque vous avez fait votre ligne pour lui.
Et ma mère ne s'est pas mariée, et nous a élevés, mon frère et moi, qui a été tué à cette guerre-ci, bêtement d'ailleurs, et, enfin, la dernière, où... Oui, mettons que c'est la dernière grande. Et elle s'est pas mariée, elle m'a parlé personnellement de mon père, et j'étais, si vous voulez, le remplaçant, presque, si j'ose dire. C'est une femme qui était très affective et qui n'avait pas de raisonnement, un raisonnement logique ne pouvait pas la toucher. Elle s'est, disons, sacrifiée, comme on dit, pour ses enfants, elle a travaillé comme une brute toute sa vie. Et j'ai vécu avec mon père mort, par l'intermédiaire de son langage, et ce qu'elle en racontait, ce qu'elle en disait. Alors, effectivement, à travers ce langage, je me suis construit une image de mon père que j'ai réalisée. En fait, c'est ça. Et, bon, à partir d'un certain moment, j'ai pas pu le suivre, il n'existait plus. J'avais plus à... Et je me suis construit progressivement, mais à partir de cette image première.
Mais ce qui vous a toujours intéressé, ce sont les malades. Ce sont les malades qui ont motivé votre... Parce que vous n'êtes plus chirurgien aujourd'hui, enfin, je veux dire, vous opérez...
Il y a 30 ans.
Bon, donc vous avez changé de cap, vous êtes entré dans la recherche, et peut-être vous êtes vous privé de l'essentiel.
Non, parce que justement, là, au départ, la chirurgie était très... Je ne vous aurais pas parlé comme ça il y a 30 ans quand j'ai abandonné, mais elle est très agréable pour le narcissisme du chirurgien. Je crois même vous l'avoir dit, autant que je m'en souvienne, si j'ai bonne mémoire, lors de la première radioscopie que vous avez faite avec moi, le chirurgien a l'impression d'un pouvoir considérable, et en général, quand il n'est pas trop maladroit, les familles lui embrassent les mains, il est le sauveur, etc. Et l'image idéale qu'il se fait de lui-même est très récompensée, si vous voulez. Donc c'est un métier dans lequel on est généralement très récompensé, très gratifié. Mais la découverte de... Non, d'abord, je dois être franc, il y a des échecs. Et ces échecs, c'est souvent la mort du malade qui vous a été confié. Alors on a l'impression qu'on est insuffisant, bien qu'on ait fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit tiré d'affaire. C'est-à-dire que l'image idéale qu'on se fait de soi-même, elle se trouve insuffisante. Et René Le Riche disait que tout chirurgien a dans son cœur un cimetière qu'il va voir le soir, qu'il visite en se couchant. Ben, c'est vrai. Mais ça déflore l'image que vous faites de vous-même. Alors vous essayez de comprendre pourquoi il y a eu échec. Et si vraiment vous êtes animé par cet orgueil, ce narcissisme fondamental du chirurgien, ben vous n'avez pas tellement de mal à vous éloigner de la chirurgie, puisque le fait de comprendre ne se limite pas à des incisions et à une technique artisanale, finalement, d'intervention sur le corps de vos contemporains. Vous cherchez comment fonctionne ce corps, et à ce moment-là, petit à petit, vous êtes entraîné à abandonner la chirurgie pour la recherche fondamentale.
Enfin, vous manquez d'un peu de rencontre, d'une approche tout à fait particulière. Le médecin est près des hommes, près des femmes, tandis que le chercheur est totalement ailleurs, presque prisonnier des idées.
Oui, seulement le chercheur a tout de même des gratifications considérables dans le fait qu'il comprend quelquefois, avec un peu de chance, des choses que les autres ne comprennent pas. Il n'est pas praticien, il est découvreur. Et s'il ne reste pas dans le champ limité de sa discipline, si, comme je l'ai dit en commençant, il est interdisciplinaire, il débouche forcément. Maintenant, il est possible qu'il peut déboucher sur les sciences humaines. Et finalement, il retrouve... Après avoir pris connaissance du fonctionnement de ce système nerveux central, il retrouve les hommes, et non plus l'homme, il ne trouve plus le patient, il trouve l'ensemble de la masse humaine et essaie de comprendre comment s'organisent les rapports sociaux. Alors, c'est aussi très enthousiasmant.
Alors vous, professeur Laborie, vous avez eu la chance, vous avez trouvé vous avez inventé. Mais le chercheur qui passe toute sa vie et qui ne trouve pas, est-ce un échec ?
Ce n'est pas un échec, parce qu'il y a deux choses dans la vie d'un chercheur. Je vais être méchant, bien sûr. Mais très souvent, il faut dire qu'en France, l'orientation vers la recherche vient de l'échec à l'agrégation, c'est-à-dire à l'enseignement. On a confondu beaucoup l'enseignement et la recherche. Et il faut reconnaître aussi que dans la recherche la plus sérieuse, c'est celle qui n'aboutit jamais. Parce que on a le statut de chercheur, et le fait de découvrir est toujours quelque chose, et de le dire, est toujours quelque chose d'assez dangereux. Parce qu'on n'est pas le bon Dieu, on peut se tromper. Si vous trompez, tout votre statut scientifique s'écroule. Alors, il y a aussi la personnalité du chercheur qui intervient. Alors, il s'oriente très fréquemment dans un espèce de ronronnement qui lui permet d'avancer dans le système hiérarchique auquel il appartient, d'attaché de recherche, il devient maître de recherche devient directeur de recherche. Et ce qu'il recherche, alors, c'est surtout un pouvoir dans les commissions, un pouvoir de faire arriver ses élèves plutôt que ceux des petits camarades d'en face. Et c'est tout un autre problème qui s'offre à lui, dans lequel son narcissisme aussi est récompensé, mais d'une autre façon, dans un système déjà existant.
J'ai été frappé parce que vous m'avez dit, lorsque nous avons commencé cette conversation, je cherche pour moi. C'est pourquoi nous sommes les premiers concernés, ou bien c'est une manière de provocation ?
Ah, c'est absolument pas une provocation, c'est le fond de ma pensée, c'est-à-dire que chacun, la seule raison d'être d'un être, je l'ai écrit 20 fois, c'est d'être. Donc, il n'y a pas d'altruisme, si vous voulez, il y a l'apprentissage, la façon dont vous devez comporter pour que l'ensemble social, c'est-à-dire la structure sociale, puisse survivre, mais c'est pas fait pour vous. Et le fait que tout homme et toute femme, je parle d'homme avec un grand H, il n'y a aucun esprit phallocratique derrière, est fondamentalement, il ne pense qu'à une chose, c'est à se maintenir en vie, c'est-à-dire et maintenir ce que Claude Bernard appelait la constance des conditions de vie dans son milieu intérieur, ce qu'ensuite Cannon a appelé l'homéostasie, le maintien de cet équilibre, et que Freud a appelé le principe du plaisir. Mais Freud aussi a bien vu que quand nous avons fait notre schéma corporel, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ou 3 ans d'existence, nous savons que nous existons dans un milieu qui n'est pas nous, nous rencontrons le principe de réalité, c'est-à-dire les autres.
Mais lorsque vous parlez de plaisir, c'est pour l'opposer ce mot au mot agression.
Non, plaisir c'est la vie. Il n'y a pas d'autre chose. Sans ça, si vous n'équilibrez pas votre organisme avec votre environnement, vous n'existez pas, ou vous tombez dans la pathologie, sur l'inhibition de l'action et de la pathologie.
C'est-à-dire l'homme est un tout indissociable de son environnement.
Sûr. Ah, bien sûr. Un enfant loup, un enfant sauvage, est un enfant qui a été abandonné en dehors de tout milieu social. Il ne devient jamais un homme. Parce que dans les 4 années de la vie, tout se passe. Et ça, Freud l'a vu, l'empreinte de Corinne Laurette le retrouve, et on le retrouve même sur le plan histologique à l'heure actuelle.
Je me rappelle, professeur Laboris, que vous me disiez, je me rappelle que vous avez été chirurgien, vous opérez, et lorsque vous opériez, vous aperceviez que l'agression de l'acte opératoire, de l'acte chirurgical, causait plus de troubles que la lésion qui attirait votre intervention, qui appelait votre intervention, c'est-à-dire la peur de l'opération
était
plus difficile que
le traumatisme,
que le mal lui-même.
C'est vrai.
C'est-à-dire, donc, tout se passe dans
non,
la tête.
Pas tout. Mais il est évident que, je me souviens, j'étais à l'époque à Bizerte, j'étais chirurgien à Sidi Abdallah, ça s'appelait à l'époque Sidi Abdallah, maintenant ça s'appelle, je ne sais plus comment, enfin bref. Et j'avais appelé mon camarade, j'utilisais première drogue psychotrope, qui n'était pas encore la chlorpromazine, et je faisais des mélanges de ces drogues pour essayer de bloquer les médiateurs chimiques qui font fonctionner, les molécules chimiques qui font fonctionner le système nerveux. Et j'étais tout étonné moi-même, d'une part d'avoir des anesthésies extrêmement faciles sans anesthésique, ça s'est appelé ensuite d'ailleurs anesthésie sans anesthésie, actuellement ça s'appelle neuroleptanalgésie, ça combinait des analgésiques qui suppriment la douleur avec des neuroleptiques, c'est-à-dire ces drogues psychotropes qui agissent sur le système nerveux central, et j'appelais ça à l'époque déconditionne, éloigne l'individu de son environnement social et son environnement géoclimatique, etc. Et j'avais appelé mon camarade psychiatre de l'époque, qui était en service au même hôpital, qui s'appelait Langlois, en lui disant, viens voir, mes malades, qu'est-ce que c'est que l'anxiété et la peur ? T'es venu les voir, évidemment, c'est des gens qui n'avaient absolument pas peur de subir une intervention grave, qu'on questionnait, qui n'étaient pas encore endormis, anesthésiés, mais qui répondaient sans crainte. Et c'est ce qui m'a amené, justement, progressivement, à me dire, ces drogues que j'utilise supprime la peur, il supprime la réaction organique à l'agression psychique de savoir qu'on va être opéré, puis à l'agression chirurgicale du traumatisme de rentrer dans la chair avec un bistouri et des pinces. Alors qu'est-ce qui se passe là-dedans? D'où ça vient? J'ai orienté ma recherche sur l'origine centrale de ce comportement.
Et on peut aller même beaucoup plus loin. Nous parlons à l'instant de l'acte opératoire, c'est-à-dire de l'intervention chirurgicale, mais on peut parler de la même manière de la parole, c'est-à-dire de celui qui crie, de celui qui impose une autorité, de celui qui fait peur et qui agit de telle sorte que celui qui est en face n'a plus la même dimension pour répondre ou pour agir.
Bien sûr, seulement alors là, on passe à travers le langage à l'agression psychosociale, si vous voulez. Et ça demande une mémoire. La mémoire de construire progressivement d'abord son schéma corporel, c'est-à-dire savoir que ce que l'enfant ne sait pas à la naissance, il n'a pas de mémoire, il n'aura pas d'agression psychosociale. Évidemment, si vous le pincez, il criera. Si vous oubliez de lui donner son biberon à l'heure d'été, il criera aussi parce qu'il est en déficit. Sa structure biologique même, son équilibre biologique est perturbée. Mais il ne vous en voudra pas, il n'aura aucune haine, aucun ressentiment à votre égard. Ce qu'il faut qu'il apprenne progressivement au cours de ses 3 premières années, d'abord, c'est qu'il est dans un milieu qui n'est pas lui. Ce qui demande un apprentissage et une action. Et ensuite, il apprend qu'il y a des choses agréables dans la vie et des choses désagréables. Alors, il va essayer de reproduire les choses agréables et d'éviter les choses désagréables. À ce moment-là, il aura des affects, il aura des sentiments, il éprouvera des sentiments. Et quand il atteint le stade du langage, le langage, qui est un deuxième signal, comme l'a appelé Pavlov, va déchaîner chez lui toute cette mémoire des faits mémorisés et il va négocier son environnement au jour le jour, à seconde par seconde, avec tout son vécu antérieur, tout ce qu'il a d'ailleurs mis dans le fond de sa mémoire et qui est entassé sans qu'il le sache même. Il le vit chaque instant en ayant le souvenir que c'est lui qui était là hier, avant-hier et les jours précédents. Donc il a son image qui passe et qui évolue dans le temps, et qui, à travers le langage, se construit d'ailleurs, du Lacan, mais il faut reconnaître que c'est assez vrai, le langage est pour lui, à ce moment-là, non seulement le moyen de communiquer avec son semblable, mais aussi la façon de construire son cerveau à travers lui. Si bien qu'à travers le langage, il y aura des agressions qui viendront du fait qu'il a déjà appris que des choses sont douloureuses, aboutissent à l'inhibition de l'action, par exemple, ou au contraire, aboutissent au plaisir, à la récompense, et peuvent être renouvelées.
Alors on parle, lorsqu'on a une conversation avec vous, on est obligé de parler de biologie. La biologie est la science de la vie, mais biologie est tout de même encore un mot très savant. On ne peut pas le remplacer par sciences humaines?
Ah, vous posez une question là, qui est embarrassante. En général...
Pas pour vous.
Non,
gardez
bien sûr,
vos
pour
mots,
moi, la biologie,
tout est question de sémantique.
Et, bien sûr. Pour moi, le terme de biologie comprend les sciences humaines. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire, biologie? Par définition, ce sont les sciences de la vie. Est-ce que les sciences humaines ne sont pas vivantes? Elles sont vivantes. La sociologie, la psychologie, l'économie, la politique sont des sciences du vivant. S'il n'y avait pas d'hommes et d'hommes vivants, il n'y aurait pas de ces sciences dites humaines. Seulement, elles se sont construites jusqu'ici sur le langage. C'est-à-dire sur une abstraction déjà extrêmement évoluée et sur des alibis logiques, alors que l'expérimentation dans les sciences humaines est très difficile. Alors que ce qu'on appelle la biologie, les sciences du vivant, limitée, si vous voulez, à son aspect qui va de la molécule jusqu'au comportement, jusqu'à l'éthologie, si vous voulez, au comportement animal et humain, ces sciences sont des sciences expérimentales. C'est-à-dire qu'en suivant un protocole, n'importe qui peut refaire ce protocole et doit arriver au résultat que vous avez décrit. Donc, on peut s'y retrouver. On part de quelque chose qui est renouvelable, qui est contrôlable par n'importe qui. Dans les sciences humaines, c'est beaucoup plus difficile, parce que dès qu'on arrive à la sociologie, en particulier à l'économie et à la politique, l'expérimentation, c'est la révolution, c'est-à-dire quelques millions de morts d'un seul coup.
J'ai compris que tout vient du système nerveux, et vous avez tenté l'expérience, une fois, de l'hibernation.
Oui, c'est vieux, oui.
C'est vieux, mais... aujourd'hui...
Je n'ai pas tenté l'expérience, elle se fait encore.
Elle se fait encore, mais aujourd'hui, on pourrait mettre... Des hommes, des femmes en hibernation?
Non, on peut.
Mais je veux dire, pour un avenir.
Ah oui, oh, ça non, pas actuellement. Là, il nous manque encore, bien sûr qu'on cherche, pas moi d'ailleurs, mais les laboratoires américains en particulier, dans un intérêt très particulier aussi, qui est celui des voyages interplanétaires, continuent à essayer de comprendre comment on peut mettre en vie ralentie un organisme et transformer sa notion du temps biologique. Je ne pars pas de la conscience qu'il a du temps biologique, c'est-à-dire ralentir ces phénomènes. Les cellules dont nous sommes constitués sont des petites usines chimiques. Et ces petites usines chimiques fonctionnent plus ou moins rapidement, suivant qu'on leur demande beaucoup de travail ou pas. Donc on peut réduire le fonctionnement de ces usines chimiques, elles s'usent moins vite, si vous voulez. J'essaie d'exprimer ça sous une forme très, très simplifiée. Elles s'useront moins vite et de ce fait, elles dureront plus longtemps, c'est tout. En hypothermie, ça semble possible. Les hibernants, par exemple, arrivent à le faire spontanément. Donc à utiliser moins d'aliments, moins de et vivres, en vie ralentie, et retrouver, lorsqu'ils en ont besoin, une vie normale. Remarquez que ça, c'est sans doute très bénéfique. L'ours des cavernes en a bénéficié, la marmotte en bénéficie encore de nos jours, le hamster doré, etc. Mmh. Mais il faut se rendre compte que ce n'est pas tellement efficace, puisque pendant ce temps-là, l'homme qui grelottait, du même nom, l'homme des cavernes, utilisait l'ours qui était en hibernation comme réservoir de nourriture et sans coup férir, si j'ose dire, s'en emparait et le tuait pour se nourrir avec. Donc, et il en reste quelques 4 ou 5 dans les Pyrénées que l'on conserve.
Disons une quarantaine.
Oui, mettons une quarantaine. Bref, c'est pas tellement efficace sur le plan de l'évolution des espèces. Il vaut mieux avoir à lutter, à inventer un comportement nouveau. Suivant les problèmes qui vous sont posés par l'environnement géoclimatique ou l'environnement humain, surtout pour l'homme, parce qu'avant l'environnement de l'homme, c'est avant des êtres naîtres, les espaces verts sur lesquels on essaie de focaliser notre attention, ce sont les autres hommes. C'est donc un problème sociologique, économique et politique avant tout, notre environnement. Mais l'hibernation, dans certains cas particuliers, peut effectivement apporter des moyens de protection efficaces si nous savons la manipuler. Si un jour nous savons la manipuler avec suffisamment de dextérité et de finesse pour qu'elle permette une vie prolongée qui ne sera actuellement sûrement pas ce que les cryobiologistes prétendent, ce qui est possible sur un organe isolé, sur du sang par exemple, mais qui est impossible sur un organisme entier, malgré toute la propagande qu'on a pu faire en disant « plongez-vous dans l'azote liquide à moins 196, et quand le traitement du cancer, vous pouvez mourir, quand le traitement du cancer sera découvert, vous fera ressusciter. » Et ça, alors là, non, c'est en dehors de
tout. Folie que tout cela. Oui.
Non, exploitation.
Exploitation. On peut dire que ce qui s'est passé dans les 40 dernières années est tout à fait exceptionnel. Les découvertes qui ont été faites sont remarquables. Alors, la biologie étant la science de la vie, peut-on imaginer que les biologistes, dans un avenir plus ou moins proche, inventeront un homme nouveau ? C'est l'interrogation que l'on peut dresser. Et lorsqu'on pose cette question aux scientifiques, immédiatement, je me rappelle avoir posé cette question au professeur Jean Bernard, il me dit, taisez-vous, ne parlez pas de ça.
Oui, pour plusieurs raisons, je suis de son avis. D'abord, je pense que la biologie a fait de très gros progrès, mais en fait, de toute façon, la thérapeutique, ce qui est autre chose, qui se base effectivement sur des connaissances biologiques de plus en plus approfondies, la thérapeutique est toujours une thérapeutique d'urgence. Et ça, je voudrais bien qu'on le comprenne. Bien sûr, si j'avais une pneumonie, j'aimerais bien qu'on me fasse de la pénicilline. Fleming, 1942 ou 43. Si j'avais un ulcère perforé, j'aimerais bien qu'on trouve un chirurgien adroit assez rapidement pour m'enlever l'estomac et l'ulcère, et ne pas mourir de péritonite. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi je fais une péritonite avec un ulcère perforé, pourquoi je fais une pneumonie. Et ça, c'est parce que je suis en inhibition de l'action, et ça, c'est avec, je négocie, je l'ai dit tout à l'heure, mon environnement social, à chaque seconde, avec tout mon vécu. Or, mon vécu, personne ne rentre dedans. Et moi-même, je ne suis incapable de savoir ce qu'il y a dans mon inconscient et dans mon vécu antérieur.
Donc nous serons toujours malades.
Non. À partir du moment où nous ne serons plus en inhibition de l'action, nous aurons trouvé...
Qu'appelez-vous inhibition de l'action d'abord ?
Et c'est très simple, inhiber dans l'agir. Mmh. C'est ça l'inhibition de l'action. Quand vous, par exemple, vous avez une pulsion à rechercher ce que je vous ai dit tout à l'heure, à vous faire plaisir, et que les interdits, je prends les plus simples mécanismes, il y en a bien d'autres, les interdits socioculturels vous interdisent eh bien, vous ne pouvez pas réaliser... Mais d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être homme pour ça. Quand vous présentez à un chien une pâtée, vous pouvez lui apprendre à l'accepter que de vous pour éviter que la pâtée soit empoisonnée par des voisins qui n'aiment pas l'entendre crier. Bien. Exact. Alors pour ça, c'est très simple. Vous lui donnez une raclée avec une cravache et vous le punissez à chaque fois qu'il l'accepte lorsqu'il est présenté par un autre que vous, quelqu'un de la famille, par exemple. Il n'acceptera plus que de vous au bout de 8 jours. Mais supposez que vous le laissiez 3 jours à la diète, ce chien. Il a faim, il a une pulsion considérable, il a envie de manger sa pâtée. Il sait que s'il la mange et qu'elle est présente, si elle est présentée par un autre que vous, il va recevoir une raclée, une punition. Alors, il fait une névrose, parce que la psychose est irréalisable, pratiquement irréalisable chez l'animal, parce qu'il manque d'imaginaire, justement. La psychose, c'est l'aboutissant dans l'imaginaire de l'inhibition de l'action. Mais, en fait, vous créez chez lui une névrose, et il devient agressif, il devient méchant, il va mordre, et il est en inhibition de l'action, parce qu'il ne sait plus quoi faire. Et c'est ça, la vie humaine, continuellement.
C'est-à-dire que nous sommes empêchés par beaucoup de choses.
Bien sûr, nous sommes empêchés et nous sommes empêchés aussi du fait que nous sommes des hommes, c'est-à-dire que nous sommes capables d'imaginer des scénarios qui ne se reproduiront peut-être jamais, mais dont nous craignons l'avènement. Et à ce moment-là, comme nous ne pouvons agir, puisque le scénario n'est pas encore réalisé, la peur du nucléaire, c'est ça. Nous savons bien que c'est dangereux. Hein. Est-ce que ça va déterminer des accidents nombreux, plus nombreux que ceux qui se passent sur les autoroutes pendant les week-ends ? Personne ne peut le dire, mais on sait que c'est dangereux. Et on ne sait pas si on va pouvoir l'éviter. Donc on est en état d'angoisse. L'angoisse, c'est l'inhibition de l'action. Je prends cet autre exemple.
Professeur Henri Laborie, je ne veux pas vous offenser, mais je crois pouvoir dire que vous êtes plus connu à l'étranger qu'en France.
Pourquoi ça m'offenserait ? J'en suis très heureux.
Non, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas, là. Pourquoi ?
Oh, pourquoi ? Pour bien des raisons. Dans le fait que, en France, j'ai été un marginal. Je ne me suis pas inscrit dans des échelles hiérarchiques de dominance, des échelles dans lesquelles je m'aurais autorisé à chercher, à trouver, à faire plaisir. Alors, quand vous m'appelez professeur, je rougris doucement. D'ailleurs, je me souviens vous avoir répondu...
Mais je fais exprès.
Oui, je n'ai rien dit là, jusque-là. Je suis professeur, bien sûr. Je suis professeur à Montréal et j'ai été professeur à Vincennes.
Je sais que ça vous amuse.
J'ai été professeur à Vincennes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous ai répondu à l'époque avec Jean-Louis Barrault. Je préfère trouver, en toute simplicité d'ailleurs, je préfère trouver ce que les autres enseignent qu'enseigner ce que les autres trouvent. Eh bien, c'est ça, c'est que je ne me suis pas inscrit dans des jeux hiérarchiques et que je n'ai pas eu de moyens de coercition. C'est-à-dire, je n'ai pas pu empêcher, je n'ai pas fait partie de commission ou de jury de concours, je n'ai pas pu empêcher les élèves de mes petits camarades d'arriver à ces concours. Donc, je n'étais pas dangereux. Donc, on pouvait m'ignorer. Et comme en plus, j'étais la négation, je crois, avoir été en partie l'exemple de ce qu'on peut faire sans faire partie de ces échelles hiérarchiques, en s'en moquant, en ne s'y intéressant pas. Et évidemment, c'est la négation de tous les parchemins, de toutes les choses qui sont nécessaires pour avoir une promotion sociale en France. Alors l'étranger s'en fout un peu de ça, ça n'intéresse pas spécialement. Alors à l'étranger, effectivement, j'ai été pratiquement invité dans tous les pays du monde. Même en Chine, mais en Chine, ils demandaient que j'aille faire 3 mois d'enseignement il y a longtemps, et je n'ai pas pu y aller à l'époque, je le regrette beaucoup d'ailleurs. Enfin, j'ai été même en Amérique centrale, au Guatemala.
Mais êtes-vous aigri ?
Ah, du tout ! Mais non, du fait que j'ai eu la chance que j'ai eue, c'est d'avoir à 35 ans eu la possibilité du fait d'une découverte qui a fait le tour du monde et dont on a voulu beaucoup. D'ailleurs, il a fallu absolument m'en déposséder, d'ailleurs, parce que je n'étais pas autorisé. Médecin militaire, médecin de la marine, ça prescrit de l'IPK, ça n'entre pas dans le système. Donc, j'ai eu la possibilité d'être invité partout et d'avoir des amis partout. Dans mon laboratoire sont venus travailler des gens, des chercheurs du monde entier. J'ai pu faire fonctionner un laboratoire pendant 20 ans sans faire appel au crédit de l'État, donc en dehors des systèmes qui pouvaient me donner de quoi survivre. C'est d'ailleurs actuellement extrêmement difficile. Je me demande tous les mois si j'ai fermé mon laboratoire.
Personne ne vous aide ?
À personne. C'est pas rentable.
Le mécénat n'existe plus. De quoi vivez-vous alors ?
Mais des découvertes qu'on a pu faire, seulement malheureusement, vous nous semblez ignorer qu'un brevet sur lequel on vous paie des royalties quand le commerce s'en empare, ça dure 18 ans, au bout de 18 ans, vous ne payez plus de royalties. Alors j'ai une drogue actuellement qui va peut-être ne pouvoir renflouer le laboratoire, mais qui a été dans les hôpitaux, mis dans les hôpitaux il y a un an, et qui sera dans le commerce général à la fin de l'année prochaine, de l'année qui vient, nous sommes. Et il faut 10 à 11 ans pour mettre une drogue actuellement sur le... Puis c'est pas notre... Nous n'en cherchons pas des drogues, nous cherchons à comprendre les mécanismes vivants. Mais comme on ne nous autorise à vivre qu'en donnant des drogues aux marchands, nous en faisons des drogues, bien sûr. Et comme nous ne cherchons pas de drogue, on en trouve plus que les autres.
Mais comment est l'environnement familial, la famille ?
Alors là, c'est très difficile. Je préfère qu'on n'en parle pas.
Non, parce qu'il y a cet environnement qui, à un certain moment de la vie, peut t'aider. Mais vous décidez de ne pas en parler, il ne faut pas en parler. Mmh. Moi, je suis très frappé par l'idée qu'a eue Alain René de travailler avec vous. Vous travaillez avec lui?
Bien sûr, on termine notre film actuellement.
Alors, je dois dire que René, qui est un grand metteur en scène...
Non, à mon avis, c'est...
L'un des plus grands.
Ouais,
a un discours particulier qui peut faire peur, ou du moins qui peut faire scandale. Il veut montrer aux gens que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils disent est entièrement frelaté, entièrement faux.
C'est vrai.
Alors, je veux dire, là, que c'est...
C'est ce que nous voulons démontrer, c'est vraiment créer un scandale.
Nous avons tous un comportement inconscient, mais tout de même, là, alors, ce que nous disons en ce moment, tous les deux, nous mentons.
Non, mais finalement, ce que nous faisons actuellement, nous exprimons simplement notre inconscient. Nous essayons, vous et moi, de montrer que nous sommes les plus grands, les plus intelligents, les plus beaux et que les autres nous aiment.
Vous croyez vraiment que ça va jusque-là ? Je ne sais pas, je n'avais pas imaginé cela, moi.
Bah oui, mais enfin, si je suis là, c'est pour me faire apprécier. Et si vous y êtes... C'est parce que vous savez très bien qu'on vous aime. Quand vous paraissez à la radio, on regarde vos émissions.
Mais non,
et
je crois que
c'est le narcissisme primaire qui est à l'origine de tout.
Mais c'est pas important d'être aimé. Je crois qu'il est plus important d'être estimé. Aimé, pourquoi être aimé?
Mais parce que...
C'est peut-être plus vaniteux.
Non, il faudrait définir l'amour et l'estime. Hein, c'est genre,
toute un problème de recherche.
Oui, bien sûr, mais toute émission n'y suffirait pas. Mais en fait, ce que nous essayons de faire, c'est... de projeter sur le monde qui nous environne, le monde, enfin les autres hommes, une image idéale que nous sommes faites de nous-mêmes. Et quand nous y réussissons, nous sommes contents. D'ailleurs, à ce moment-là, on est conservateur. Quand l'image qui nous est renvoyée par nos semblables n'est pas conforme à l'image idéale que nous faisons de nous, alors on est révolutionnaire, on voudrait changer les rapports sociaux de façon à ce qu'on puisse nous aimer, nous admirer. C'est pour ça que je suis révolutionnaire, si vous voulez.
Vous, révolutionnaire, c'est-à-dire tout casser pour faire autre chose?
Comment?
Tout casser pour faire autre
non,
chose?
Non, pas tout casser, mais essayer de transformer ces rapports sociaux. Ces rapports sociaux, on ne peut les transformer que si chaque individu sait comment il fonctionne, s'il est conscient de tous les mécanismes qui aboutissent à son comportement journalier de chaque seconde. Alors, c'est pas demain la veille, vous comprenez? C'est sans ça... Les rapports sociaux, on peut changer les rapports de production, on l'a fait dans les pays socialistes. On a supprimé la propriété privée, les moyens de production et d'échange. Et puis on a retrouvé aussi la recherche de la dominance à travers...
Et tout recommence.
Et tout recommence.
Alors donc il n'y a pas de solution?
Mais si, il y a une solution. Pour aller sur la Lune, il faut connaître les lois de la gravitation. Si vous ne connaissez pas les lois de la gravitation, vous n'allez pas sur la Lune. Et ce n'est pas parce que vous connaissez les lois de la gravitation que vous allez vous libérer de ces lois de la gravitation. Vous allez les utiliser pour faire autre chose. C'est essentiellement différent. Comment voulez-vous faire autre chose tant que vous ne savez pas comment fonctionne votre cerveau?
Oui, ce qui me paraît dangereux, ce sont justement les lois de la dominance, puisque tous ceux qui ont voulu être libres se sont condamnés justement à ne plus avoir de liberté. Et je crois qu'on peut compter sur les doigts des deux mains le nombre de pays qui sont libres aujourd'hui.
D'abord, je ne crois pas que la liberté existe. Premièrement, je pense que la première liberté qui devrait naître... entre nos mains, c'est celle de naître au monde ou pas. Or, vous naissez au monde, parce qu'il y a un homme et une femme qui ont décidé ou pas décidé, la plupart du temps, que vous allez naître. Et vous n'y êtes pour rien. Et dès le départ, donc, les dés sont pipés, puisque vous n'êtes pas libre. Ensuite, débrouillez-vous, monsieur.
Mais vous êtes là. Vous ne pouvez même pas regretter d'être là.
Oui, mais alors,
de toute manière, vous avez eu du bonheur dans votre vie.
Bien sûr que j'ai eu du bonheur, mais heureusement, sans ça, je ne serais pas vivant. Je serais suicidaire ou je serais mort d'une infection, d'un cancer ou d'autre chose. Donc j'ai été relativement heureux. Mais d'ailleurs, le bonheur, c'est pas ce qu'il faut chercher. Le bonheur ne s'atteint jamais. L'homme a la possibilité d'imaginer des... C'est-à-dire de désirer quelque chose. La majorité de nos contemporains ne désirent rien. Ils ont envie de quelque chose. On ne désire pas une résidence secondaire. On a envie parce qu'on voit que l'autre se fait plaisir avec. Alors on veut avoir aussi le même plaisir que l'autre. On ne désire pas une femme.
C'est du mimétisme, alors.
Eh oui, enfin non, c'est l'apprentissage de ce qui peut faire plaisir et des moyens qu'il faut avoir pour se faire plaisir. Se faire plaisir, je le répète, c'est pas quelque chose de trivial, c'est simplement être bien dans sa peau. Alors, désirer, c'est inventer, mais dès que vous avez imaginé une solution, d'abord, ce n'est pas toujours possible parce que les autres ne sont pas d'accord. Et dès que votre projet se heurte au projet de l'autre, c'est-à-dire votre déterminisme se heurte au déterminisme de l'autre, et c'est le plus fort qui gagne, ou celui qui, dans la structure sociale, est le plus conforme à cette structure, qui est une structure hiérarchique de dominance, toujours. dont il devrait pouvoir, effectivement pouvoir se passer. Je crois que ce qui a été grave pour l'espèce humaine, c'est que les animaux font partie d'un paysage. Comme aurait dit Jacques Monod, ils ont des pressions de nécessité. Ils y obéissent pas, ils disparaissent en tant qu'individu, en tant qu'espèce. L'homme s'est trouvé exactement dans la même situation. Il s'est cru en dehors du paysage, lui. Alors il était très embêté parce qu'il était angoissé, il était inhibé dans son action. Ne sachant pas ce qu'il fallait faire, ce qu'il allait lui tomber sur la figure, il a découvert les lois de la physique d'abord. Il s'est cru libre du fait qu'il avait son langage qui lui permettait de manipuler le monde avec des mots. Et il a inventé des règles. Des règles qui étaient les religions, les morales, les lois, les états, etc. Et ces règles, elles sont strictement abstraites. Ouais. Et elles défendent, elles protègent quoi? Non pas la structure de l'individu, mais la structure du groupe. Or, comme ce groupe se trouve dans un espace et qu'à côté de lui, il y a d'autres groupes qui veulent aussi bénéficier des mêmes avantages, il y a compétition entre les groupes et finalement, c'est l'espèce qui est en train d'en crever, c'est tout.
Je voudrais savoir, Henri Laborie, pour quelles raisons vous êtes content d'avoir traversé cette vie?
Je ne sais pas si je suis content d'avoir traversé cette vie. Je me demande d'ailleurs ce que j'y fais encore, souvent, non pas que je sois dépressif.
Oh, mais ça, c'est le désespoir, alors.
Comment?
Alors que toute votre vie, vous aurez lutté pour dissiper l'angoisse, gommer les difficultés, et d'une certaine manière, faciliter le sommeil, c'est-à-dire inventer le rêve.
Avec le gamma wash, c'est celui dont vous voulez parler. Oui, bien sûr, mais j'en ai encore pris hier au soir, vous savez. Parce que justement, je ne sais pas...
Mais est-ce une nécessité de prendre des tranquillisants
bien... Ah non, mais je ne prends pas des tranquillisants. Moi, je prends uniquement les drogues que j'ai trouvées. Bon, je prends des aspartates, je prends du gamma wash, bon, je prends de la vitamine D, je prends des... Bon, parce que j'ai aussi travaillé un peu le vieillissement, je ne voudrais pas vieillir trop vite, je voudrais pas arriver à la fin de cette vie.
Plutôt
plus ou moins mal. Alors, je voudrais éviter cette décrépitude que je crains comme, plus que la mort. Alors, c'est pour ça que je prends des drogues, mais parce que je ne peux pas changer le système social dans lequel je vis. Si je vivais dans une ambiance sociale dans laquelle je puisse m'exprimer librement, en fait, j'y arrive.
Vous êtes libre de vous exprimer librement?
Ah là, bien sûr, en fin de carrière, parce que je ne suis pas entré en compétition dans les systèmes hiérarchiques où on m'avait collé. J'étais dans la marine, vous le disiez tout à l'heure. Bon, je n'ai jamais été médecin général, mais je m'en foutais. Et alors, ça m'a donné une certaine autonomie. À partir du moment où vous ne courez pas après la carotte qu'on vous tend, vous en foutez. Et j'ai eu une carrière, effectivement, absolument anarchique. J'ai écrit des livres absolument révolutionnaires, étant payé par l'État en fonction, en activité de service. Bah, ça n'intéressait personne, ce que je pouvais écrire. Et en plus, ce que j'écrivais, ça se vendait. Donc, il y avait du profit par les éditeurs qui le prenaient. Donc, tout le monde était content, le système marchait. Alors, vous voyez, quand on comprend tout ça, on joue avec ça. On s'amuse formidablement avec ses contemporains qui ont le vu basse et qui foutent le camp dans toutes les carottes qu'on leur tend pour avoir les grades, les décorations, etc.
Tous les honneurs. C'est-à-dire que la hiérarchie ne pouvait pas vous aimer.
On en rigole.
Mais vous ne m'avez pas répondu. Je vous avais demandé pour quelles raisons vous étiez heureux d'être passé sur cette terre.
Parce que pour la bonne et simple raison que si je n'étais pas passé, je n'aurais pas su. Bon, alors, comme j'y suis passé...
Vous avez trouvé. Je pensais que vous alliez me répondre parce que j'ai trouvé, parce que j'ai inventé, parce que j'ai cherché.
Je ne peux pas dire que je sois heureux d'être passé sur cette terre. D'ailleurs, je le répète, le bonheur, c'est un truc vers lequel on tend et qu'on n'atteint jamais. Sans ça, c'est fichu. On devient l'imbécile heureux. Hein, ça. C'est le cas de le dire. Je crois que l'angoisse existentielle, l'angoisse de la mort, l'angoisse de la vie, d'ailleurs, c'est l'angoisse de l'ignorance. Et pas de la liberté, c'est l'angoisse du déterminisme cosmique que l'on sent que vous écrasez les épaules en passant par l'intermédiaire de vos contemporains. Et ça, alors effectivement, ça amène à essayer de comprendre. Alors dire que je suis heureux, non, et que je n'ai jamais été évidemment parfaitement heureux. Peut-être dans l'accouplement, de temps en temps, peut-on sortir de ça et exceptionnellement arriver à une espèce d'entente qui doit te... participer à l'extase mystique, à cette impression de retrouver son moi tout primitif.
Les enfants, c'est...
Alors les enfants, je veux bien, mais les enfants, qu'est-ce que c'est que les enfants? Je ne veux pas être trop destructeur, mais c'est une façon d'occulter, une façon efficace d'occulter pour la majorité des gens l'angoisse de la mort. En fait, ils ont l'impression qu'ils se prolongent dans leurs enfants. Et qu'ils ne vont pas mourir, puisqu'il y a des molécules d'eux-mêmes qui se transmettent. Il faudrait savoir, à la troisième génération, ce qui reste avec les combinatoires génétiques, ce qui reste de leur capital personnel. Pas grand-chose, en général. Et d'autre part, ils essaient, à travers leurs enfants, de parcourir un pas supplémentaire dans la hiérarchie sociale. L'instituteur voudra que son fils soit professeur agrégé. Il sera très ennuyé s'il est simplement garagiste ou s'il est ouvrier ou un manœuvre ou ouvrier spécialisé. Donc, cette gratification des parents par les enfants, c'est simplement une question de narcissisme très primaire. Et finalement, ce qui reste d'un homme, d'abord, c'est simplement qu'il ait vécu, parce qu'il a transformé, qu'il veuille, ou même le nouveau-né, le mort-né, dirais-je, laisse une trace dans le système nerveux des gens qui l'entourent. Oui. Et il n'y a pas d'homme ayant passé sur cette terre qui n'ait pas laissé une trace. Ce n'est pas la peine qu'il ait une étiquette qui s'appelle Claude Bernard, bien sûr, s'il trouve en plus des choses. Mais en fait, le fait de vivre est déjà transformé l'environnement de l'époque où vous naissez, etc. Mais ce qui est important, c'est l'information. Ce qui disparaît de nous, c'est la matière. Mais ce qui reste de nous, c'est ce que nous sortons pendant ce court laps de temps de cette matière et qui n'est ni masse ni énergie, qui est information. Et c'est ça qui pénètre le cerveau des autres hommes, se transmet de génération en génération. Je prends souvent l'exemple du monsieur qui a inventé la noria. Vous savez, ce système qui permet à un âne, en tournant autour d'un puits, de lever l'eau du puits. Bah, personne ne sait son nom. Tous les pays du monde et toutes les civilisations du monde, à une époque ou une autre, ont utilisé le système de la noria pour sortir l'eau des puits. Et il a laissé une trace.
Ce sont les mille et une nuits sur le plan de la littérature.
Et bien sûr, exactement.
On connaît les mille et une nuits, mais qui
les a fait, bien sûr.
Mais c'est vraiment l'altitude de la notoriété.
Oui, bien sûr.
Vous avez étudié une nouvelle grille d'études des comportements aujourd'hui, parce que peut-être vous-même vous comportez-vous différemment.
Oh, bien sûr, alors ça c'est sûr. Je vous dis que quand je copiais mon père, je copiais un homme qui avait vécu, qui était entré à l'école en 1908, c'est tout dire. Moi, j'y suis entré en 1934. Bon, déjà, les mondes étaient différents. La Grande Guerre était passée entre les deux. Bien. Alors, j'ai vécu avec toutes les... Il faut penser qu'à 19 ans, on m'a mis un genou en terre, un coup d'épée sur l'épaule gauche, le drapeau, le coup de clairon, puis on m'a dit « vous êtes élite de la nation ». À 19 ans, on a tendance à y croire, si vous voulez. Je simplifie les choses, enfin, c'est un peu ça. Et alors ensuite, interne des hôpitaux, à l'époque, où nous avions un pouvoir considérable, les patrons revenaient 2 heures dans la journée, un service à votre disposition, vous étiez le roi du service, celui qui prenait les décisions à 22 ans, vous vous rendez compte, c'est formidable. Et je me suis laissé prendre à ce jeu-là. J'y ai cru, mais bien sûr, j'y ai cru. Et il a fallu pas mal de temps, il a fallu mon métier pour me faire sortir, pour prendre une certaine relativité par rapport justement à ces automatismes de pensée et de comportement qui fait qu'un individu s'inscrit dans un type de société. Alors, vous ne pouvez pas vivre seul, vous baladez avec vous tout votre vécu, et même dans une île déserte, Robinson Crusoe a emporté tout son acquis culturel. Mais il s'agit de prendre une certaine distance avec ça et de le juger à sa juste valeur et ne pas prendre pour la réalité de simples jugements de valeur, des préjugés, des...
Vous avez longtemps fréquenté ceux qui laissaient leur esprit vagabonder ailleurs. Alors, je voudrais savoir si les fous peuvent être heureux, ceux qui se prennent pour Napoléon, Jeanne d'Arc, Marilyn Monroe, je ne sais pas quoi, ou Louis XIV.
On n'est pas dans leur peau, mais... Je pense que si on regarde leur équilibre biologique, au moment où ils sont déments, oui, ils ne sont pas malheureux. Pour y arriver, ce n'est pas facile et ils sont alors là très perturbés. Ils ont des taux de cortisolémie, ils sont sur le plan biologique très bouleversés. Mais à partir d'un certain moment, lorsqu'ils ont compris, ils ont rompu tout contact avec leur environnement social, qu'ils sont dans leur folie, on dit qu'ils sont déments. Pourquoi ? Parce que, et on dit, on ne comprend pas ce qu'ils disent, bien sûr, ils ont des mots dans leur mémoire et ça ne sert plus à communiquer avec l'autre. Donc, ces mots-là ne leur servent qu'à être manipulés par leur imaginaire et on ne comprend pas ce qu'ils disent. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils ne doivent pas être malheureux. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'ils ne font pas de cancer ou très rarement de cancer. Toutes les statistiques mondiales le montrent. Qu'ils ne font pas de maladies infectieuses, par exemple. Les observations montrent que tout le personnel infirmier d'un hôpital psychiatrique peut être atteint par la grippe, eux, ils se baladent dans les couloirs en disant que je suis Napoléon ou Jeanne d'Arc, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc j'aurais tendance à croire qu'ils ont enfin trouvé un état d'équilibre avec eux-mêmes, en se séparant du monde qui les entoure. Et j'ai l'habitude de dire aussi que, par contre, quand vous allez au cimetière, que vous voyez une tombe sur laquelle il y a bon fils, bon époux, bon père, bon citoyen, priez pour lui, Ce type a été... Il avait tout pour être heureux. Il a sans doute même été récompensé par la Légion d'honneur et la Croix du Mérite. Il a eu un avancement social et une promotion exceptionnelle. Cependant, il est mort d'un infarctus du myocarde, d'une hémorragie cérébrale, d'une impuissance sexuelle et avec une hypertension artérielle. Parce qu'il n'était pas bien dans sa peau. Parce qu'il était récompensé sur un autre registre que celui qui était de son équilibre biologique. Et cependant, le monde extérieur disait que c'est un type parfaitement à bien adapté.
Je disais tout à l'heure, justement, Henri Laborie, que vous aviez été mieux récompensé par l'étranger que par la France. Et vous avez eu le prix Lasker, je crois.
Lasker.
Le prix Lasker, c'est le prix Nobel. Quoi.
Bah, c'est enfin, le prix
une
Nobel
forme,
américain.
De prix Nobel.
Il y a 28 Lasker qui ont le Nobel.
Bon, alors, je veux dire que là, quand même, vous étiez content d'être couronné, d'avoir des lauriers, de tomber à votre tour dans les honneurs.
Oui, non. C'était en 57, c'est déjà vieux, vous savez. Et pour dire que ça m'a ennuyé, non, ça m'a fait plaisir. Peut-être un peu par agressivité, en disant, on ne me l'a pas donné en France. Je suis la médaille de Zizevski, de l'Académie des sciences de Moscou, enfin, de l'URSS. Je n'ai pas de prix français, bien sûr. Mais simplement pour dire, gna-gna-gna, c'est bon. Bon, un peu comme si vous voulez,
oui,
un peu comme si vous voulez, Guillemin, prix Nobel, quand on le sent demander à entrer à l'Académie de médecine, on pose son nom parmi les candidats, uniquement pour avoir le plaisir de le refuser en disant que l'Académie de médecine française, nous, le peuple le plus intelligent de la Terre, se fait le luxe de refuser un Nobel parmi ses membres. C'est le même genre. C'est de la petite agressivité
oui, de la même manière, étage. De la même manière, Marguerite Yourcenar n'est pas encore à l'Académie française.
Oui,
enfin, oui.
Bon,
mais vous m'aviez dit une fois que toutes les relations entre hommes sont fondées sur les rapports de force. Et moi, je pense qu'à ce moment-là, les hommes qui basent leurs rapports sur des rapports de force, justement, sont des faibles.
Non, ils sont basés sur des rapports de force. Où se situe la force actuellement? Elle se situe dans la possibilité de faire fonctionner ce qui est le caractéristique de l'homme, c'est-à-dire ses lobes orbitofrontaux, ses lobes associatifs, ce qui, dans son cerveau, lui permet d'imaginer, de façon abstraite, de façon très abstraite, en utilisant par exemple des formules mathématiques et de physique, ce qui permet de faire des machines, de contrôler leur fonctionnement, de les administrer, et qui vous donne dans un pays, dans un système général qui aboutit uniquement à la production de machines, à vous donner une force, c'est-à-dire un pouvoir. C'est le pouvoir des technocrates et du bureaucrate. Bien. Alors, effectivement, ça, dans les espèces animales, c'est souvent le plus rusé ou le plus fort qui établit sa dominance. Dans les systèmes actuels, dans les systèmes humains, ça a été très longtemps la même chose chez les hommes. Il ne faut même pas oublier, je le dis fréquemment, qu'au Moyen-Âge, il fallait mieux être un grand costaud et porter le haume et le haubert pour pouvoir asseoir sa dominance et son droit de cuissage. Hein, n'oublions pas. Actuellement, pour avoir la possibilité d'un droit de cuissage assez rentable et assez varié, bah, il vaut mieux avoir une voiture assez opulente et avoir un pouvoir, c'est-à-dire avoir un fauteuil à la chambre, même si on n'est pas très fort au lit.
Alors, je me rappelle ces mots que vous aviez lancés comme une litanie, liberté, égalité, fraternité, vous ajoutiez ces mots avec lesquels on fait des génocides.
Oui.
Vous êtes toujours d'accord?
Oh oui, toujours, de plus en plus. Et je dis de les remplacer sur le fantôme de nos, machins, de nos édifices publics par conscience, connaissance, imagination, bien sûr, oh, ça sûr.
Henri Laborie, vous avez la nécessité de réussir. Il vous faut chercher, trouver et ensuite persuader. Devez-vous passer pour cela par la politique? Et vous en parliez à l'instant.
Je n'ai pas besoin de passer par la politique. D'ailleurs, je ne suis pas homme politique parce que je ne cherche pas un pouvoir. Galilée avait peut-être un pouvoir. On me dit souvent, vous avez le pouvoir de la parole, vous avez le pouvoir de la connaissance. Mais Galilée était foutu en tôle. Les gens qui ont le pouvoir, ils ont à leur disposition l'armée et la police. Je n'ai pas encore, quoi que je sache, la police et l'armée à ma disposition. Et c'est ça, l'homme politique, c'est celui qui influence par son aura, d'ailleurs, l'avenir de ses contemporains. D'ailleurs, en étant l'expression d'un système. Il n'a aucun pouvoir, parce que finalement, on croit qu'il a un pouvoir, mais il a le pouvoir des multinationales, des groupes de pression, quels qu'ils soient, etc. Il ne fait qu'exprimer une structure hiérarchique de dominance. C'est tout.
Merci, professeur Henri Laborie. Demain, un autre rendez-vous. Demain, je referai un comédien et on aurait pu parler également de musique, de théâtre. Nous l'avons déjà fait, d'ailleurs.
J'ai fait un rapport récemment en Pologne sur la biologie comportementale du théâtre.
Alors demain, un comédien, Victor Lanoux.